Les timbrés.
Les timbrés. Michel Soulier.
Association philatélique montpelliéraine. Les timbrés, Michel Soulier.
Michel Soulier, pour cette nouvelle émission des timbrés, nous allons partir au début du XXe siècle en Allemagne, sous la République de Weimar.
Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Ah, au lendemain, donc je me suis... Ah oui, en 1919, oui, 1919, nous sommes bien au lendemain.
Nous sommes au lendemain, après le traité de Versailles, donc la République de Weimar est mise en place. L'Allemagne a été battue. Les alliés mettent des conditions extrêmement dures pour l'Allemagne. Et après le traité, donc, vont se mettre en place tout un tas de réparations de guerre à verser par l'Allemagne, avec non seulement des sommes en numéraire énorme, mais également des compensations économiques très lourdes. Et ceci, ça va plonger l'Allemagne dans une spirale économique inflationniste infernale, qui, suite à l'occupation de la Ruhr en 1923 par les Belges et les Français qui ont voulu occuper la Ruhr en tant que, encore une fois, en tant que réparation de guerre, a vraiment déclenché une crise très grave. Et on va voir que au travers de la philatélie, au travers des courriers, au travers des timbres, eh bien, on va suivre cette chute vertigineuse du mark allemand de 1922 à décembre 1923, avec des périodes d'hyperinflation extrêmement fortes.
Alors comment ça se passe pour le philatéliste par rapport à cette histoire? Comment est-ce que le timbre se glisse dans cette histoire?
Eh bien, les timbres, ils se glissent dans cette histoire parce que les tarifs postaux doivent suivre le cours de la monnaie. Le port, le service rendu ne change pas. Donc si la monnaie se dévalue, ben, il faut que les timbres se dévaluent également. Et donc il faut changer en permanence les valeurs des timbres. C'est ça que l'on va suivre sur les courriers pendant cette période-là. À titre d'exemple, je vais vous donner quelques chiffres de cette inflation. En 1914, juste donc avant la guerre, il faut 4,20 marks pour 1 dollar. En octobre 1922, c'est-à-dire au moment du démarrage de l'hyperinflation, 1 dollar vaut 4430 marks. En janvier 1923, pour 1 dollar, il vous faudra 49 990 marks. Le 7 septembre 1923, pour 1 dollar, il vous faudra 53 millions de marks. Et le 20 novembre 1923, pour avoir 1 dollar, il vous faudra 4 milliards 200 millions de marks. Donc vous voyez la vitesse à laquelle cette inflation se développe, et surtout les 6 derniers mois, l'apogée étant au cours du mois de novembre. Il faut savoir qu'entre le 1er janvier 1923 et le 31 décembre 1923, il y a eu 18 changements de tarifs postaux. Alors, la spirale ne prend fin qu'en décembre 1923, quand il y a une réforme monétaire très importante en Allemagne. On remplace le mark par ce que les Allemands appellent le Rentenmark, qui est en fait une monnaie transitoire, avec une dévaluation de 12 zéros. C'est-à-dire que 10 milliards de marques valent 0,01 Rentenmark, soit un pfennig. Donc, la suppression des billets privés, le rétrécissement des moyens officiels de crédit, le gel des crédits, va quand même amener, à partir de décembre 1923, une stabilisation. Les tarifs postaux ont suivi cette course folle et, je vous disais tout à l'heure, seul pour l'année 1923, il y a déjà 18 tarifs. Donc ça tourne très très vite. Et le paroxysme, c'est en novembre, 5 tarifs pour le mois de novembre, dont un ne durera que 4 jours. Et sur ces 4 jours, il y a un jour férié et un dimanche. Alors, vous pouvez déjà imaginer, par contre, que les plis, les lettres qui sont affranchies au tarif de cette date-là sont rares et très recherchées par les collectionneurs. Alors, évidemment, à cette vitesse, la Poste n'arrive pas à suivre un tel rythme pour émettre de nouveaux timbres à chaque changement de tarif. Donc, elle va utiliser différentes stratégies pour pouvoir répondre quand même aux nécessités d'affranchissement du courrier. Et donc, elle va avoir recours d'abord à des surcharges, c'est-à-dire qu'elle va imprimer des valeurs nouvelles sur des timbres déjà existants, parce que ça s'imprime beaucoup plus rapidement que de redessiner un timbre et de prendre toute la filière d'émission. Elle va accepter que l'on paye le port des lettres en numéraire, en argent liquide. Et là aussi, ça donnera des choses assez spectaculaires, parce qu'on verra des lettres où il y aura une partie de timbre, une partie payée en numéraire. Ça donne des plis assez compliqués. Et enfin, elle acceptera qu'il y ait des émissions locales et même des émissions privées qu'elle reconnaît. Et notamment une firme d'éditeurs philatéliques très connue, Borek, qui se trouve dans le Brunswick, a eu l'autorisation d'imprimer des timbres de son propre chef et ils étaient reconnus par la Poste. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Au bout de 3 semaines, la Poste a dit halt parce que ça a commencé à sentir la spéculation. Le summum a été atteint pour le dernier tarif du mois de novembre, qui débute le 26, donc du 26 au 30 novembre, eh bien là, la Poste n'arrivant plus ni à fournir des timbres surchargés, ni à en imprimer d'autres, eh bien elle a exigé que les timbres soient vendus au guichet au quadruple de leur valeur faciale. C'est-à-dire que quand vous achetiez un timbre à 1 milliard de marques, eh bien, vous le payez 4 milliards. Voilà. Et donc, en fait, la Poste, sa dernière émission va dater du 22 novembre, juste avant l'avant-dernier tarif, mmh. disons. Et elle va éditer donc pour cette dernière émission un timbre dont la valeur faciale est 50 milliards de marques. C'est bien sûr la valeur la plus élevée que l'on connaisse sur un timbre. 50 milliards, ça ne, surtout qu'il n'y a pas marqué à cause de l'inflation. Hein. Vous ramassez un timbre, il y a écrit 50 milliards dessus, c'est quand même assez surprenant. Il faut savoir qu'il ne vaut pas maintenant les 50 milliards. Même il ne vaut pas grand-chose en fait. Ah. Enfin, grand-chose, il vaut quelques euros, mais ce n'est pas un timbre rarissime. Par contre, il est relativement rare sur lettre, parce que le tarif a duré peu de temps. Mmh. Et ça, par contre, les collectionneurs le recherchent. Donc, ce timbre à 50 milliards, en fait, il représentait quoi? Eh bien, il représentait tout simplement le port, le prix de l'affranchissement pour une carte postale dans le régime intérieur allemand. Donc, la lettre était déjà beaucoup plus chère. Et dans ce tarif, le dernier tarif, le port le plus élevé que l'on connaisse pour une lettre de moins de 20 grammes, c'est une lettre pour l'étranger. Et on doit payer pour une lettre envoyée, par exemple, de Berlin à Paris, 320 milliards de marques. Ce qui représente évidemment des quantités de billets assez impressionnantes. Bon, il faut savoir quand même que la banque de la République de Weimar a quand même émis aussi des billets à plusieurs milliards de marques, parce que sinon on n'en sortait plus. Ouais. Voilà, et donc on trouve, durant cette période, surtout le deuxième semestre 1923, des lettres avec des affranchissements très spectaculaires. Que ce soit en couleur, parce que souvent il a fallu beaucoup de timbres pour arriver à faire le montant, et même avec le nombre de timbres, on trouve des lettres avec plus de 100 timbres pour atteindre le coût du port.
Alors, est-ce que ce sera une lettre comme celle-ci qui va illustrer votre visuel de cette émission, Michel Soulier?
Alors, on en mettra, je pense, plusieurs, d'ailleurs, pour l'illustrer. Et sinon, il suffira d'aller sur le site, dans les articles philatéliques qui sont sur le site, et on trouvera un article spécifiquement sur cette période d'inflation en Allemagne en 1923.
Donc voilà, plus de renseignements encore sur l'association philatélique Montpellier-Rennes. Merci Michel Soulier, à bientôt.
À bientôt.